Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Dans le Deutéronome, l'Éternel nous fournit une directive clé sur notre cheminement chrétien, et cette clé nous garantit de ne pas nous égarer, ni d'aller après des choses de néant. Je voudrais que nous nous reportions, si vous le voulez bien, à Deutéronome chapitre 12 et le verset 32. Deutéronome chapitre 12. Et le verset 32. Voici ce que l'Éternel nous dit. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Nous devons observer et mettre en pratique ces instructions et ne rien y ajouter et ne rien y retrancher. Bon, de prime abord, il s'agit d'un commandement assez simple, que tout le monde devrait comprendre, mais finalement que très peu d'individus semblent pleinement prendre au sérieux et pratiquer. Et ceux qui essaient de s'y conformer entièrement, nous autres chrétiens y compris, il semble que pour nous autres, la pratique soit plus difficile que la théorie, n'est-ce pas? Nous autres humains, nous avons tous nos opinions. Et qu'il nous est difficile de faire ce qu'on nous dit, qu'il est difficile pour nous d'obéir. Si l'humanité avait pu mettre en pratique ce simple verset, que notre monde serait différent. Israël avait une théocratie. Dieu était le Seigneur et Maître. Mais Israël ne tarda pas à demander un roi comme les autres nations. Et il rejeta Dieu. Dieu lui donna donc un roi, non sans l'avoir prévenu de ce qui l'attendait. Dieu donna à Israël un roi qui avait belle allure, mais qui ne suivit guère longtemps les directives divines. Saül ne tarda pas à se fier à son propre raisonnement, estimant savoir mieux que Dieu ce qu'il fallait faire. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Nous connaissons ce verset, Proverbes chapitre 14 et le verset 12, c'est un de nos versets clés. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbes chapitre 3, verset 5, un autre verset qui nous est familier. 1 Samuel chapitre 15, verset 23. Reportons-nous à 1 Samuel chapitre 15 et le verset 23. Et voilà ce que l'Éternel dit à Saül, le premier roi d'Israël, après qu'il se soit mis à agir à sa propre guise. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. L'Éternel n'a-t-il pas dit, vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne? Vous n'y ajouterez rien et vous n'y retrancherez rien? Les fêtes de fin d'année sont caractéristiques de l'infidélité d'Israël, certes, mais aussi de l'espèce humaine. Et du christianisme traditionnel qui, il y a bien des siècles, a préféré lui aussi agir à sa guise, plutôt que d'obéir à Dieu. Il semble que l'infidélité soit un trait majeur des êtres humains. L'infidélité physique, certes, mais aussi et surtout l'infidélité spirituelle. Christ a dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes ». Luc chapitre 16, verset 10. C'est là un test de notre fidélité. Jacques ne parlait pas d'adultère physique quand il déclara dans Jacques chapitre 4 et le verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Les gens cherchent tellement à faire comme tout le monde. Même quand tout le monde a tort. Lors de la réforme protestante qui eut lieu il y a 500 ans, Martin Luther et ses contemporains insistaient sur la devise « sola scriptura », laquelle signifie les Écritures uniquement ou rien que la Bible, prétendant qu'ils étaient à la base de leurs efforts tentant à réformer le catholicisme, à la base de leur rejet de l'autorité du pape et des traditions catholiques. Ils auraient pu redevenir fidèles à l'Éternel, mais ils ne l'ont pas fait. Rien n'a changé, ou si peu. Pourquoi ? Parce que le christianisme traditionnel, protestantisme y compris, s'obstine à n'agir qu'à sa guise au lieu d'obéir à Dieu et simplement faire ce qu'il a dit. Incidemment, l'Église de Dieu, Association mondiale, n'est pas une Église protestante. Elle pratique les enseignements de l'Église primitive. Les réformateurs prétendaient, souvent, que leur objectif était de réformer le christianisme pour qu'il ressemble davantage à celui de l'Église originale, décrite dans le livre des Actes. Le Nouveau Testament fournit beaucoup d'informations sur les croyances et les pratiques de l'Église primitive. Cette Église était unifiée par les enseignements des 12 apôtres, qui enseignaient fidèlement ce qu'ils avaient appris de Christ et de l'Ancien Testament. Cela, on peut le constater en lisant des passages comme Actes chapitre 2, les versets 41 et 42, Actes 17 et le verset 2, et Éphésiens chapitre 2, verset 20, passage auquel je ne me reporterai pas, mais que vous pouvez noter si vous le voulez. Et cette Église croyait et pratiquait la vérité développée par l'apôtre Paul. Cette vérité venait de Christ, mais elle fut développée par l'apôtre Paul. Et incidemment, il n'y a pas de théologie pauline. Paul ne disait pas autre chose que ce que Christ avait dit. Paul a développé ce que Christ avait dit, mais il n'avait pas sa philosophie à lui, sa théologie à lui, ce qu'on prétend souvent. Paul a écrit « Toute écriture ou toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Nous connaissons ce passage probablement par cœur dans la plupart des cas. Pour véritablement restaurer le christianisme originel, les réformateurs auraient dû pleinement adhérer à la Bible pour leur doctrine et leurs pratiques. Hélas, bien que le prétendant souvent, ils ne l'ont pas fait. Ils ne lui sont pas demeurés fidèles, pas plus qu'ils n'ont suivi ce que Dieu dit. Une pratique qu'ils auraient dû éliminer est celle de la célébration de la fête religieuse que le monde s'apprête à observer. Dans 3 jours, des millions de croyants, ainsi qu'un nombre non négligeable de non-croyants, célébreront Noël. Cette fête et celle associée à la fin de l'année romaine prouvent-elles la fidélité envers Dieu et envers Christ ? Les chrétiens devraient-ils célébrer Noël ? Cette fête semble être la plus chrétienne des fêtes religieuses. Il s'agit supposément d'une fête à propos de Christ, n'est-ce pas ? Or, Dieu veut-il que nous la célébrions ? Cette dernière est devenue un icône nostalgique d'un passé imaginaire. Le Père Noël, le sapin et les cadeaux occupent le premier plan tant dans les foyers chrétiens que non chrétiens. Et c'est une formidable aubaine commerciale, n'est-ce pas ? Cela fait marcher les affaires. Tant et si bien que la plupart des commerces en Occident, du moins, font pendant cette période leur plus gros chiffre d'affaires. Néanmoins, ces coutumes et beaucoup d'autres liées à cette célébration ont-elles un rapport avec la Bible et l'histoire authentique de la naissance de Jésus ou du message comme la signification de son premier avènement ? Oh non ! En fait, selon la Bible, qui en ce qui nous concerne est la seule autorité valable pour tout vrai chrétien, étant la parole infaillible de Dieu, dans sa version originale, les traditions de Noël déforment et même contredisent l'Écriture, ce que je me propose de vous prouver. Quand nous réfléchissons à la réforme d'il y a 500 ans, Elle devrait nous rappeler que les faux enseignements doivent être remis en question. Mais si nous voulons protester les erreurs, nous devons être disposés à les remplacer par la vérité, ce que Luther n'a pas fait, et ce que les autres réformateurs de son temps n'ont pas fait non plus. Honore-t-on Christ quand on observe Noël? C'est ce que bien des croyants, souvent sincères, bien que fourvoyés, prétendent. Or, il est bien connu que cette fête religieuse puise ses origines dans des pratiques polythéistes, païennes et non chrétiennes. Ce n'est plus un secret pour personne. Des centaines d'articles sont écrits chaque année expliquant ses origines à cette période de l'année. Il y a même des émissions qui expliquent cela. L'Église du Nouveau Testament honorait Christ en tant que celui qui est venu pour nous écarter de l'erreur, des ténèbres et du péché. S'étant détournés du paganisme pour suivre Christ, les premiers chrétiens auraient-ils conservé leurs pratiques païennes antérieures pour essayer de l'honorer? Les premiers chrétiens n'observaient pas les fêtes païennes. Qu'a écrit Paul? À Éphèse se trouvait l'une des sept merveilles de l'Ancien Monde, le temple de Diane ou d'Artémis. Et les membres de l'Église de Dieu à Éphèse avaient, avant leur conversion, bien connu toute cette idolâtrie dans cette ville. Ils savaient d'où ils venaient. Mais Paul nous dit ceci, ou leur dit ceci, Éphésiens chapitre 5, verset 8, Éphésiens chapitre 5 et le verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est ce que devrait faire tout chrétien digne de ce nom. Quiconque se serait livré à fond à ces pratiques, à des pratiques dédiées au paganisme et aux faux dieux, continuant de prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, aurait ouvertement violé son engagement à obéir en tant que chrétien à son Seigneur et roi. Ni le Christ ni l'Église primitive ne célébraient Noël. Pourquoi? Pourquoi? Quand on se base sur ce que déclare la Bible et non sur des idées humaines, ce qu'on fait et qu'on fait fi des coutumes pré-chrétiennes de Noël, qu'apprend-on? Que ces fêtes d'origine païenne sont loin d'être fidèles à la vérité. Jésus naquit-il le 25 décembre? La Bible nous dit, elle ne nous dit pas quel fut le jour de sa naissance. D'après le World Book Encyclopedia, paru en 1990 sous la rubrique Christmas, Noël, on peut lire ceci. C'est en 336 de notre ère que la mention de la célébration de Noël, le 25 décembre, est apparue pour la première fois dans l'un des premiers calendriers romains. Fin de citation. En fait, c'est le pape Jules Ier qui le décréta. Notez bien que cette première mention de Noël date de plus de 300 ans après la crucifixion et la résurrection de Jésus. La date de la naissance de notre Sauveur n'est pas précisée dans la Bible. Pourquoi choisit-on la date du 25 décembre? Il est précisé dans le même article que, je cite, cette célébration était probablement influencée par des fêtes païennes, non chrétiennes, observées à la même époque. Les anciens Romains observaient des célébrations de fin d'année en l'honneur de Saturne, le dieu des récoltes, et de Mitra, le dieu de la lumière. Divers peuples dans le nord de l'Europe observaient des fêtes à la mi-décembre pour célébrer la fin de la saison des moissons. Et un peu plus loin, leurs coutumes finirent petit à petit par être incorporées à la célébration de Noël. Fin de citation. Tous les ans, à cette époque, sont publiés de nombreux articles similaires sur l'origine de Noël. À nouveau, comme je le disais il y a quelques instants, ce n'est plus un secret pour personne. Les croyants qui célèbrent Noël ont eux-mêmes documenté ses origines non chrétiennes. D'ailleurs, sur un site chrétien, Grace to You, la grâce soit avec vous, est même mentionnée l'information suivante. Voici ce qu'ils écrivent. La décision de célébrer Noël le 25 décembre a été prise au cours du IVe siècle par les évêques de l'Église de Rome. Ils avaient une raison bien précise à le faire. Raison qui était leur raison, mais qui n'était pas avec celle de Dieu, évidemment. L'article précise, confirmant ce que nous venons de lire il y a quelques instants, et je poursuis cette citation, la première mention de la célébration de Noël date de 336. Elle apparut dans l'un des premiers calendriers romains, le fixant le 25 décembre. Toujours sur ce site, on peut lire, « Ayant depuis longtemps abandonné le culte du vrai Dieu, le Créateur de toutes choses, beaucoup de cultures dans l'Empire romain avaient sombré dans le culte du soleil. Conscients de leur dépendance du périple du soleil dans le ciel, elles observaient des fêtes apparentées au solstice d'hiver. En décembre, quand les jours sont plus courts, ce faisant, ils faisaient des feux de joie afin de donner de la force au dieu soleil et le ramener à la vie, comme si en faisant des feux, ça donnait un plus de lumière au soleil et ça aidait le soleil. Ça, c'est typiquement païen, n'est-ce pas? Quand il devenait évident que les jours se mettaient à s'allonger, de grandes réjouissances avaient lieu. Les responsables de l'Église romaine décidèrent de célébrer la naissance du Christ pendant le solstice hivernal dans l'espoir de christianiser ces célébrations populaires païennes. Dans l'ensemble, leurs efforts visant à pousser les gens à s'y conformer échouèrent. Les festivités païennes continuèrent. Or, la Bible révèle que Dieu ne veut pas que les êtres humains l'adorent de la même manière que les païens adorent leur Dieu. Dieu avait clairement averti l'ancien Israël de ne pas incorporer des coutumes païennes dans leur culte du vrai Dieu. Reportons-nous à Deutéronome chapitre 12. Deutéronome chapitre 12 et le verset 29. Deutéronome 12 et le verset 29. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, et ils ne l'ont pas fait, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi, et ils ne les ont même pas détruites d'ailleurs. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel, et même elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu, ce qui était terrible. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Nous avons lu cela il y a quelques instants. Dans l'évangile de Marc, Christ fit une déclaration qui s'applique à ces fêtes d'origine païenne. Voici ce qu'il déclare à un groupe qui se croyait très religieux. Marc chapitre 7, verset 6. Marc chapitre 7 et le verset 6. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'âme. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Un peu plus loin, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Il faut bien comprendre que se contenter de qualifier quelque chose de chrétien ne suffit pas à le rendre chrétien. Peu importe les traditions que nous avons ou les rationalisations que nous employons. Soyons certains que nos croyances s'appuient sur la Bible et non sur des traditions ou des enseignements humains, surtout lorsqu'ils contredisent la Bible directement. Alors revenons sur ces dates du 25 décembre. Des millions de croyants de par le monde célèbrent la naissance de Jésus le 25 décembre. Les orthodoxes la célèbrent environ 2 semaines plus tard, le 7 janvier, qui correspond au 25 décembre dans le vieux calendrier julien. Or, y a-t-il lieu de croire que Jésus naquit en plein cœur de l'hiver? Les récits de Matthieu et de Luc ne font mention d'aucune date ni de la moindre saison. Quand la Bible garde le silence à propos d'un détail de ce genre, il est sage de se dire que peut-être il y a une raison à ce silence. Se peut-il que Dieu ait choisi d'entourer ce détail d'ambiguïté, ne souhaitant pas que la naissance de Jésus soit célébrée comme fête? Le silence de la Bible sur la saison et la date de sa naissance est notoire. Mais ce qui est aussi significatif, ce sont les indices placés dans l'Écriture indiquant que sa naissance n'eut pas lieu en hiver. Parlons pour commencer de la raison pour laquelle Joseph et Marie se rendirent à Jérusalem. Il est écrit dans l'Évangile selon Luc ce qui suit. Luc chapitre 2 et le verset 1. Luc chapitre 2 et le verset 1. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Un peu plus loin, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, un peu plus loin, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Bon, il est fort douteux que les autorités romaines aient demandé aux gens de se déplacer pour se faire enregistrer dans un recensement lors des mois typiquement pluvieux et froids de l'hiver. On sait que ces mois étaient froids et pluvieux à la lecture du cantique. Il y a plusieurs passages dans la Bible qui montrent bien que ces mois étaient pluvieux et froids. Esdras, chapitre 10, versets 9 et 13. Et le livre des Cantiques, ou le Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 11, mentionne ces choses-là. Donc, la Bible elle-même indique qu'en hiver, il fait froid et c'est pluvieux. Il y a donc de plus fortes chances que les autorités romaines aient effectué ce recensement pendant une saison où les voyages étaient plus faciles, aussi bien pour les gens qui étaient recensés que pour eux, les Romains. Luc nous fournit un autre détail, indiquant que cela n'eut pas lieu dans un mois d'hiver. Quel est ce détail? Luc chapitre 2, verset 8. Luc chapitre 2 et le verset 8, nous sommes dans Luc, pas besoin d'aller trop loin. Verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. De nombreux commentateurs font remarquer que les bergers avaient coutume de rentrer leurs troupeaux la nuit dans les mois froid et pluvieux, typiquement de novembre à mars. L'érudit A.T. Robertson a écrit dans ses remarques dans A Harmony of the Gospel ce qui suit. Ce qui est apparent essentiellement, c'est que le 25 décembre n'est pas l'époque de la naissance de Christ, vu que les bergers ne pouvaient pas se trouver dans les champs, la nuit avec leurs troupeaux, qui étaient habituellement rentrés, sous-entendu, dans des étables en novembre, où ils restaient jusqu'en mars. Les nuits de décembre ne permettaient guère qu'on veille dans les champs, sur les collines, même dans le sud, comme à Bethléem. Et cela mis à part, le long parcours entre Nazareth et Bethléem n'aurait guère pu être effectué par Marie et Joseph en hiver, qui est la saison des pluies. Fin de citation. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue il y a bien des années avec un membre de ma famille, qui croyait dur comme fer qu'il fait toujours beau en Palestine, toute l'année, qu'il fait chaud dans toute l'année. J'ai eu beau lui affirmer que son opinion n'était pas étayée sur les faits, elle ne voulut pas en démordre, et c'est typique de bien des gens aujourd'hui aussi. La vérité ne l'intéressait pas. Elle se disait que les moutons en Palestine étaient dehors en hiver. C'était cela qu'elle avait décidé, c'était cela qu'elle avait dans la tête. Un point, c'est tout. Et il n'y avait rien à faire pour la faire changer d'avis. Et comme je le dis, c'était typique de bien des gens. La décision de célébrer le 25 décembre comme date de naissance de Jésus ne s'appuyait pas sur des détails ou des indices bibliques. les preuves historiques pointent en fait sur un choix fait plusieurs siècles après la naissance de Jésus, dans le souci de la faire correspondre au solstice d'hiver. Comme je l'ai déjà précisé, beaucoup de religions anciennes rendaient un culte au soleil. Célébrant la date de naissance de diverses divinités du soleil lors du solstice d'hiver dans l'hémisphère nord, le jour le plus court de l'année. Parce que ce jour-là, le soleil recommençait à briller plus fort. Bon, parlons maintenant des mages. Parlons des mages. Pratiquement toutes les scènes de la nativité comptent trois rois mages. Supposément Gaspard, Melchior et Balthazar. Venu adorer Jésus le soir du jour de sa naissance. Or, une lecture attentive du récit de Matthieu, le seul passage des Écritures où les mages sont mentionnés, incidemment, révèle qu'il y a plusieurs choses qui ne collent pas avec cette notion moderne. Premièrement, il n'est nulle part question dans les Écritures de Gaspard, de Melchior et de Balthazar. Ensuite, Matthieu situe leur visite après la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2 et le verset 1. Et je lis à partir de la version Darby. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. On note à la lecture du restant du récit que cela se produisit plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et même peut-être jusqu'à 2 ans après la naissance de Jésus. Quand les mages arrivèrent à Jérusalem, ils parlèrent de la naissance de Jésus comme d'un événement passé. Matthieu 2:2, Matthieu chapitre 2, verset 2, et je lis à partir de la version Osterwald cette fois-ci. Où est le roi des Juifs qui est né, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. L'étoile, incidemment, était un ange. Les étoiles ne se baladent pas, ils ne s'arrêtent pas, une étoile, ça reste dans le ciel, ça reste. Il était question d'un ange. Troisièmement, à 4 reprises dans son récit, Matthieu parle de Jésus comme le petit enfant. Le petit enfant. Intéressant. Verset 8. En les envoyant à Bethléem, il leur dit « Allez et informez-vous exactement du petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, c'est Hérode qui parle, faites-le-moi savoir, afin que j'y aille aussi et que je l'adore. » Oui, tiens, mon œil, c'était pas pour l'adorer, c'était pour le détruire, comme c'est écrit ailleurs. Verset 9. Eux donc, ayant entendu le roi, s'en allèrent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Où était le petit enfant? À nouveau, le petit enfant. Il ne s'agit pas d'un bébé, il ne s'agit plus d'un bébé, mais d'un petit enfant. Verset 11, et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent à nouveau le petit enfant, avec Marie sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent, et ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 13, après qu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi, prends le petit enfant à nouveau, pas le bébé, le petit enfant et sa mère, et t'enfuis en Égypte et te tiens là jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Dans l'original grec, il est question du mot « paidion », P-A-I-D-I-O-N. Paidion, qui s'applique habituellement à un enfant n'étant plus nourri au sein. Matthieu aurait pu se servir du mot nepios, N-E-P-I-O-S, qui décrit un nouveau-né encore à la mamelle, comme dans Matthieu chapitre 21, verset 16. Mais il ne l'a pas fait. Par conséquent, Matthieu décrit les mages comme rendant visite au petit enfant et dans la maison, incidemment, ce qui prouve que la famille vivait alors dans une maison à Bethléem. Il est aussi précisé que le roi Hérode fit tuer, et je cite, tous les enfants, qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, selon le temps dont ils s'étaient enquis exactement auprès des mages. Pourquoi 2 ans et en dessous? Intéressant, n'est-ce pas? Il voulait être certain qu'il n'y avait plus aucun enfant né à l'époque où les mages leur dirent que Christ devait naître ou était né. Donc il prit 2 ans, il prit tous les enfants qui étaient de 2 ans et en dessous et il voulut les détruire tous. C'est significatif, n'est-ce pas? Mais notez bien que le texte ne précise pas le nombre de mages venus adorer Jésus. Il est seulement mentionné que des mages, magos, M-A-G-O-S dans l'original, des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Matthieu chapitre 2, verset 1, nous l'avons lu déjà, mais il dit que Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Je pense que nous avons déjà lu ce passage. Bon, on a faussement supposé qu'ils étaient 3 du fait qu'ils apportèrent 3 présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ben, de tels présents étaient souvent offerts à un roi, et rappelez-vous que Jésus était de lignée royale. Mais il n'est pas précisé dans le passage combien est-ce qu'il y avait de mages. Il n'est pas non plus précisé quels étaient leurs noms, ni d'où ils venaient précisément. Ce n'étaient pas des rois, comme on le prétend, mais des mages ou des sages, venant apparemment de l'Empire Parthe, où se trouvait une partie des 10 tribus dispersées, et il s'agissait de sages versés dans les écrits hébraïques et dans le judaïsme. Quand on demande aux chrétiens, la plupart des chrétiens aujourd'hui, quand on leur demande combien de mages allèrent voir Jésus à Bethléem, à la crèche, à sa naissance, la plupart du temps, ils vous répondent 3. Or, la réponse est 0. 0. Les mages ne virent Jésus que plus tard et dans la maison, comme nous l'avons lu. Dans la maison. Non dans la crèche. Ces exemples illustrent un problème courant qu'ont les gens à l'égard de la Bible. Ces suppositions sur Noël, qu'elles soient importantes ou non, comme le fait de substituer la date de naissance d'un faux dieu soleil à la naissance de Jésus, ou minime, qu'il y ait 3 mages ou non, cela montre à quel point les gens supposent sans vérifier ce que déclare la Bible. Les mythes et les fausses conceptions courantes sur la naissance de Jésus font partie de la célébration de Noël. Ce qui est navrant, c'est qu'une fête qui prétend célébrer la naissance du Messie est essentiellement perpétrée des mythes qui trompent les gens à propos de sa naissance. Il ne s'agit là que d'un aspect du problème avec Noël. En second lieu, de nombreux éléments de cette célébration, y compris sa date, ses symboles et ses traditions, puisent leurs racines dans d'anciennes célébrations païennes. Bien que le christianisme célèbre sa naissance comme l'une des fêtes les plus sacrées, il est choquant que seulement 2 des rédacteurs des évangiles aient jugé utile de mentionner l'événement. Luc lui accorde le plus d'attention alors que Matthieu n'en parle que brièvement. Marc et Jean n'en parlent même pas, consacrant essentiellement leur évangile à la vie adulte, au ministère et à la mort de Christ. Les rédacteurs plus tardifs du Nouveau Testament, comme Paul, Pierre, Jacques et Jude, ne font même pas allusion à la naissance de Jésus. Cela veut-il dire que la naissance de Jésus était un événement insignifiant? Aucunement. Mais les rédacteurs des évangiles lui consacrent très peu de textes. Et nous n'en avons que de rares détails. Le meilleur moyen d'apprendre la vérité sur la naissance de Jésus, et sur ce qui compte encore davantage, comme sa vie, consiste à abandonner cette idée, ou cette fête bourrée de mythes, et de la remplacer par une étude approfondie, motivée par la fidélité envers ce qui est écrit dans la Bible. Ces fêtes de fin d'année, comme l'indique le titre de mon sermon, sont des fêtes d'infidélité. Ce sont des fêtes d'infidélité. Elles s'appuient sur l'infidélité humaine envers notre Créateur. Elles consistent à faire le contraire de ce qu'il nous a dit. Noël n'est que la partie cachée de l'iceberg, pour ce qui est des mythes et des fausses conceptions, sur ce que la Bible déclare en réalité. Posons-nous quatre questions. Est-il chrétien de célébrer la naissance de Christ lors de l'anniversaire de naissance d'un ancien dieu soleil? Deuxièmement, est-il chrétien d'observer d'anciennes pratiques cultuelles païennes rebaptisées chrétiennes? Troisièmement, est-il chrétien de mentir aux enfants à propos de l'existence d'un personnage mythique? Quatrièmement, est-il chrétien d'ignorer les fêtes bibliques et de leur substituer des fêtes mentionnées nulle part dans la Bible? L'une des déclarations les plus succinctes et les plus mémorables de Paul se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, chapitre 11, pardon, et le verset 1. 1 Corinthiens 11, 1, je ne m'y reporterai pas, mais il est écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Dans cette courte phrase, Paul résume en somme ce qu'est le vrai christianisme. Pour ce qui est d'adorer Dieu, allons-nous imiter l'exemple de Jésus en observant les fêtes bibliques qu'il observait, ou allons-nous célébrer les fêtes qu'ont inventées les humains? Jérémie chapitre 10, verset 1. Jérémie chapitre 10 et le verset 1. Jérémie 10, 1. Écoutez la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux, pour qu'il ne branle pas. Intéressant, cette ancienne coutume. C'était peut-être juste un poteau à cette époque-là, mais cela semble bien décrire pour moi, en ce qui me concerne, le sapin de Noël, n'est-ce pas? Hein? Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien. Qu'a écrit Paul? Qu'a écrit Paul? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Est-ce que nous devons faire comme tout le monde, ce que bien des gens font? C'est ce qu'on fait, c'est ce qui se fait de ces jours-ci. C'est comme ça qu'on fait. Hein? Est-ce que nous devons faire la même chose, que nous devons suivre aveuglément ce que les gens font, même lorsqu'ils ont tort? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 17. Les questions pour nous, et les questions des vrais chrétiens ici. Est-ce que nous allons écouter ce que Dieu dit, ou alors est-ce que nous faisons quelque chose de différent, n'agir qu'à notre guise, comme des millions de croyants le font? 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » De nos jours, on cherche souvent à remettre Jésus-Christ dans Noël. Or, il n'en a jamais fait partie. Le 25 décembre était une fête polythéiste basée sur des mythes. Qu'y a-t-il encore dans Noël comme autre mensonge? Les parents font croire à leurs enfants que le Père Noël existe. Le problème, c'est que ce n'est pas vrai. Il n'existe pas plus qu'il n'a un atelier au pôle Nord. Où dans la Bible Dieu nous autorise-t-il à mentir, notamment à nos enfants? N'est-ce pas Dieu qui a dit « Tu ne porteras point de faux témoignages » ou « Tu ne mentiras point » Exode chapitre 20, verset 16, Exode 20, 16, c'est l'un des 10 commandements. À votre avis, que ressent Dieu quand on dit des mensonges à son sujet? C'est important du fait de l'origine du mensonge. Jésus expliqua à un moment donné dans Jean chapitre 8, verset 44, que le diable est menteur et le père du mensonge. Le diable, Satan, Lucifer. Les gens à qui il s'adressait étaient les dirigeants religieux de l'époque. Et il les mit en colère en disant qu'ils avaient pour père le diable. Peu importe qui vous êtes, si vous mentez ou si vous perpétuez un mensonge, c'est mal, c'est un péché. Et que dire maintenant de l'échange des cadeaux? Bien souvent, on ne voit pas non plus pourquoi il serait mal d'échanger des cadeaux à cette époque de l'année. Or, dans son livre « 4000 Years of Christmas, A Gift from the Ages », 4000 ans de célébration de Noël, un cadeau des siècles, serait une bonne traduction de ce titre, paru en anglais en 1997, le prêtre épiscopalien Earl Count établit avec ferveur les rapports historiques entre l'échange des cadeaux lors des 12 jours de Noël et les coutumes originaires de l'ancienne Babylone païenne. Il montre aussi que le gui fut adopté par les druides dans leur rite mystérieux et que le 25 décembre a davantage de rapport avec les anciennes Saturnales romaines qu'avec Jésus. Il s'agit d'un prêtre épiscopalien, mais d'un prêtre, et lui apparemment observe Noël. Et pourtant il vous dit tout ça. Des siècles après avoir averti son peuple de ne pas l'adorer comme les païens, mélangeant continuellement des pratiques païennes avec leur culte, retranchant certaines choses et ajoutant d'autres choses à ce qu'il avait dit, Dieu déclare ceci par la bouche de son prophète Amos. Reportons-nous à Amos chapitre 5 et le verset 21. Amos 5, 21. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Au verset 23, on peut lire, verset 23 de Amos 5, « Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. » Et la version BFC, Bible en français courant, est encore plus directe. « Cessez de brailler vos cantiques à mes oreilles. » Intéressant, n'est-ce pas? Les cantiques qu'on chante lors de fêtes religieuses du christianisme traditionnel, et je ne parle pas ici du vrai christianisme, ont beau être de jolis chants. Du fait de ce qu'ils représentent et de leur origine pour Dieu, ils ne sont que vacarme. Dieu disant dans Malachie 3:6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas », et précisant dans Hébreux chapitre 13 et le verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement », qu'est-ce qui nous fait croire qu'il a changé d'avis? Si Jésus apparaissait aujourd'hui, approuverait-il notre culte d'une fête empruntée aux religions païennes, idolâtrant le soleil, la lune, etc.? Le fait qu'on l'ait mélangé à la religion et qu'on l'ait appelé chrétien, signifie-t-il que Dieu l'a approuvé? Nos traditions ne l'emportent pas sur l'obéissance. Si nos cœurs sont justes, n'allons-nous pas nous efforcer d'adorer Dieu en esprit et en vérité, pour reprendre l'expression utilisée par Jésus s'adressant à la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 et le verset 24? Matthieu chapitre 7 verset 21 est un autre verset clé à propos de ces fêtes païennes. Qu'est-ce que Dieu essaye de nous faire comprendre? Matthieu chapitre 7, verset 21. Que dit-il? Est-ce que nous l'écoutons? Matthieu chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et il y en a beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur. Il y a des millions de croyants qui disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, seulement celui-là. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Si l'on était réellement sérieux et cherchait à faire la volonté divine, il y aurait bien plus de paix sur la terre pour les hommes de bonne volonté. on verrait des bonnes actions tout le temps et pas seulement quelques jours quand règne supposément l'esprit de Noël. Il y a longtemps, Jésus ou Dieu prononça par la bouche du prophète Ézéchiel les paroles suivantes, des paroles qui résonnent encore par leur actualité. Ézéchiel chapitre 22 et le verset 26. Ézéchiel 22 et le verset 26. Ces sacrificateurs violent ma loi. On pourrait remplacer sacrificateur par le clergé, viole ma loi. Profane mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux. Un peu plus loin. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Et l'Éternel ne leur a point parlé. L'Éternel ne leur a point parlé. Faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit est présomptueux, n'est-ce pas? Noël est une fête d'origine humaine. La Bible ne fait pas la moindre allusion à la célébration du jour de naissance de Jésus qui eut probablement lieu en automne. En fait, ce n'est que près de 3 siècles plus tard qu'une réception d'anniversaire pour Jésus s'est frayée un chemin dans les célébrations religieuses. Pourquoi? Parce que le syncrétisme, le mélange de religions, et beaucoup de gens font cela aujourd'hui, ils prennent un petit peu ici, ils prennent un peu là, chacun fait sa propre religion. Ah, je suis d'accord avec ce que ces gens-là disent, mais pas tout, alors cela je le prends, et puis, ah ben ça aussi c'est bien, c'est pas mal. Alors vous avez beaucoup de gens qui se font leur propre religion, c'est du syncrétisme, on mélange, n'est-ce pas? Le syncrétisme est devenu un outil courant employé par l'Église romaine pour assimiler les païens dans ses rangs. Les fêtes païennes du milieu de l'hiver étaient immensément populaires dans toute l'Europe, et de ce fait, mélanger ces pratiques aux rites de l'Église était une méthode permettant d'inciter les non-croyants à épouser leur version du christianisme, ce qui, comme nous l'avons vu il y a quelques instants, n'a pas réellement donné de bons résultats malgré tout. Et quelles étaient ces fêtes? Ces fêtes, elles comprenaient l'anniversaire de la naissance du dieu soleil Mitra, les Saturnales, une saison de débauche honorant le dieu romain de l'agriculture, Saturne. Plusieurs célébrations européennes du solstice hivernal glorifiant le retour du soleil. Les célébrations de la bûche, hein, qui n'a pas entendu parler de la bûche de Noël, hein, la bûche. La célébration de la bûche sert à la religion nordique du 21 décembre au mois de janvier avec leurs nombreuses coutumes superstitieuses. Leur dieu, Odin, supposément effectuaient des vols nocturnes lors desquels ils observaient les gens, ou ils, hommes, hein, Odin, observaient les gens, et décidaient qui médire et qui bénir. Cela ne vous rappelle-t-il pas un certain Père Noël? Les gens ne se convertissent pas facilement, et ils ne renoncent pas aisément aux coutumes profondément populaires. Mais les dirigeants ecclésiastiques avaient leur méthode, ils se disaient que les gens conservent leurs coutumes et contentons-nous de les mélanger avec les nôtres en les qualifiant de chrétiennes. Au lieu de célébrer le Dies Natalis Solis Invicti, la date de naissance du lieu du soleil invaincu, nous dirons dorénavant que nous honorons Jésus, le Fils de Dieu. Et hop, voilà, c'est fait. Ah, le problème, c'est que ce n'est pas basé sur les Écritures et cela contredit ouvertement les Écritures. Augustin d'Hippone, très influent dans l'Église romaine, déclara lors d'un sermon de Noël « Célébrons ce jour comme fête, non en l'honneur de ce soleil qui est fêté par les croyants, autant que par nous, mais en l'honneur de celui qui a créé le soleil. » Et voilà, et voilà. On fait les choses à sa façon. On ne fait pas ce que Dieu dit, on fait des petits mélanges. Et que dire du jour de l'an? Que dire du jour de l'an? Dans les anciennes cultures, la nouvelle année débutait souvent au printemps. Mais quand parut Jules César, le calendrier était faussé. Pas du tout exact, il était plus du tout exact. Pour que ce dernier s'aligne sur les saisons, César dut ajouter 90 jours. Et on peut lire dans history.com ce qui suit. Au fil des siècles, le calendrier cessa d'être synchronisé avec le soleil, et en 46 avant notre ère, l'empereur Jules César décida de résoudre le problème en consultant les astronomes et les mathématiciens les plus réputés de son temps. Il institua le calendrier julien qui ressemble étroitement au calendrier grégorien moderne que la plupart des pays dans le monde utilisent. Avec sa réforme, César institua le 1er janvier comme premier jour de l'année, partiellement pour honorer l'homonyme du mois, Janus, le dieu romain des commencements qui, avec ses deux visages, pouvait à la fois se remémorer le passé et scruter l'avenir. Les Romains célébraient ce jour, sous-entendu, en offrant des sacrifices à Janus, en s'échangeant des cadeaux, décorant leur maison de branches de laurier et participant à des réceptions tapageuses. Beliefnet.com précise que le nouvel an était associé au solstice d'hiver et que c'était une ancienne fête, je cite, « une ancienne fête ayant des racines spirituelles profondes ». Ah oui, spirituelles, oui. Qu'est-ce qu'ils entendent par spirituel, je me demande. Les anciens Romains la célébraient par 6 jours de soûlerie, qui nous semblerait probablement familier. Effectivement, c'est ce qui se passe le jour de l'an. Combien de gens se saoulent le jour de l'an? Très peu de choses ont changé, n'est-ce pas? À ses origines anciennes, ici et là, dans le monde, de nombreuses traditions et superstitions sont venues s'y ajouter. En voici un échantillon. En Équateur, les gens fabriquent des mannequins empaillés, représentant les événements et des individus comme les politiciens et les icônes de la culture populaire de l'année passée, et ces effigies sont brûlées à minuit, éliminant symboliquement le passé. On peut lire ça dans beliefnet.com. Il y en a même qui essaient de sauter 12 fois au travers des flammes. Où est-ce que ça, c'est écrit dans la Bible? Martha Stewart.com parle aussi d'une tradition comprenant des sauts. Je cite, « Beaucoup de Danois célèbrent le nouvel an en sautant de chaises. » Quand sonne minuit. On dit que sauter bannit la malchance et apporte de la chance pour la nouvelle année. Il lance aussi par tradition des assiettes aux portes des voisins pour symboliser leur amitié. La personne ayant le plus d'assiettes cassées passe pour avoir le plus d'amis. Etc., etc., etc. La Bible fournit sa propre liste de fêtes annuelles et elles sont chargées de sens. Mais le jour de l'an, pas plus que Noël d'ailleurs, n'y figure pas. Ce n'est assurément pas le début d'une nouvelle année pour Dieu qui place le premier mois de l'année en mars ou en avril, comme on peut le lire dans Exode chapitre 12, verset 2, Exode 12, 2, ou Deutéronome chapitre 16 et le verset 1. Et la Bible nous avertit de ne pas nous laisser piéger par des coutumes originaires de religions païennes. Nous ne devons pas nous demander, comme nous l'avons lu antérieurement, comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi, je veux faire de même. Tant de gens font comme cela, précisément. Beaucoup de chrétiens, y compris. Certaines coutumes et superstitions, beau paraître intéressantes et inoffensives, pour bien des gens de nos jours, Dieu en a horreur. Il sait d'où elles proviennent et les fruits qu'elles portent. Jouer avec le paganisme n'est pas inoffensif. Cela nuit à notre relation avec le vrai Dieu. Dieu se déclare lui-même être un Dieu jaloux. Et cela prouve qu'il nous aime et désire pour nous ce qu'il y a de meilleur. Deutéronome chapitre 6, versets 14 et 15. L'apôtre Pierre nous dit d'éviter les fêtes néfastes, où il y a, comme il l'écrit, le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Est-ce que cela ne décrit pas réellement ces fêtes de fin d'année? Oh oui, oh oui. Cela, c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 4 et le verset 3, je ne m'y reporterai pas. 1 Pierre 4, 3. Pierre reconnaît que nos amis peuvent trouver étrange que nous ne célébrions plus ces fêtes avec eux. Mais tout compte fait, c'est à Dieu que nous devons rendre des comptes. Pour toutes ces raisons, célébrer la fête païenne du Nouvel An ne plaît pas à Dieu. Victor Hugo écrit dans ses Proses philosophiques, ouvrir un beau livre, s'y plaire, s'y plonger, s'y perdre, y croire, quelle fête! J'ai trouvé cette citation intéressante. Vous et moi, quasi quotidiennement, nous ouvrons un beau livre, la Bible. Nous nous y plaisons, nous nous y plongeons, nous nous y perdons même, nous y croyons. Et pour nous, c'est bien là une véritable fête, n'est-ce pas? Les paroles de notre Père Céleste ne sont-elles pas souvent pour nous un régal spirituel? Le monde traverse une saison de fêtes. Dans 3 jours, des millions d'êtres humains célébreront Noël et 7 jours plus tard, le Nouvel An. Quelle part aurons-nous dans ces célébrations, dans ces fêtes de l'infidélité? Les membres de l'Église de Dieu, Association mondiale, ne s'impliquent pas dans les célébrations de Noël. Il est écrit que nous devons honorer Christ lors de l'anniversaire de sa mort et non de sa naissance. Il est clair d'après Paul que c'est ce que nous devons observer. Et si vous n'êtes pas tout à fait certain, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 11 et les versets 23 à 29. 1 Corinthiens chapitre 11, versets 23 à 29. Où Christ nous dit « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà des choses que Dieu nous dit de faire. Combien de chrétiens font ce que Dieu dit? Luc chapitre 22, verset 19. Luc 22, verset 19. Simplement pour résumer ce que je viens de dire ici. 22, verset 19, dans le verset que je viens de citer. Luc 22, 19. Luc chapitre 22 et le verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » Voilà quelque chose que nous devons célébrer, observer. Et une fois par an. Une fois par an selon la Bible, non pas tous les dimanches. Jésus naquit en tant que notre sauveur, mais il va aussi revenir en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Apocalypse 19, versets 15 et 16. Le règne millénaire de Christ débutera alors sur terre. Cet événement est préfiguré et accentué lors de la fête annuelle des tabernacles qui a eu lieu en automne dans l'hémisphère nord. Christ a dit à ses disciples de célébrer cette fête comme lui l'observait. Et cela, c'est un autre sujet, mais c'est pour une autre fois. Le Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean chapitre 14 et le verset 6. Dieu veut être adoré avec intégrité et fidélité. Reportons-nous à Josué chapitre 24 et le verset 14. Josué 24 et le verset 14. Josué 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Dans 1 Corinthiens 5, 8, comme je le disais il y a quelques instants, il est écrit « Célébrons donc la fête ». Combien de personnes célèbrent cette fête? Si peu. Si peu parmi tous ces millions de soi-disant chrétiens. Assurons-nous que nous bâtissons notre maison spirituelle non sur des traditions humaines puisant leurs racines dans le paganisme, mais sur la parole infaillible et inspirée de Dieu, étant fondée, comme cela est évoqué dans Matthieu 7, 24, étant fondée sur le roc, sur le roc. Je ne vous souhaite pas joyeux Noël, pas plus que je ne vous souhaiterais une bonne et heureuse année. Il y a bien des années que j'ai cessé d'observer ces fêtes saturées de paganisme et n'ayant strictement rien à voir avec le vrai christianisme. Ce que je vous souhaite par contre, c'est une bonne fin de sabbat, bon courage, et je vous dis au revoir et à bientôt.